J'ouvre le débat. Alors, je connais bien sûr le texte que tu citais vers la fin, la violence, oui ou non, quelque chose comme ça. Je me suis toujours demandé en le lisant, quand il dit qu'il ne faut pas hésiter à faire usage de violence, mais quelle forme concrètement ? Une forme de violence qui concernerait des personnes, même des hommes politiques, s'en prendre à eux physiquement ?
Alors, ça, c'est la question qu'on me répète aussi à chaque fois que j'ai mobilisé ces textes. Et. J'aurais tendance à utiliser maintenant à chaque fois des exemples d'actualité. Prenons des situations comparables avec les dernières affaires avec les Panama Papers, par exemple. On apprend donc ouvertement que toute une caste politique, quel que soit l'État, quel que soit le régime politique en place, utilise le même système financier pour détourner de l'argent et sortir complètement du système légal dans lequel pourtant ils doivent vivre. Plusieurs réactions sont possibles. On peut dire que c'est pas bien. Donc c'est ce qu'on fait par exemple en France pour le moment. Voilà, c'est pas grave. On condamne moralement. Ou on peut faire, comme je prends toujours régulièrement l'exemple islandais, ils sont une petite société insulaire, donc automatiquement c'est peut-être plus facile. Au bout d'une semaine, leur premier ministre qui était mouillé, pourtant c'est légal. C'est légal de détourner de l'argent en utilisant ce fonctionnement. Ben, ils se sont réunis en masse devant le bâtiment où était le premier ministre. Sur place, non pas place de la République, mais devant le bâtiment politique. Et tout à coup, que se passe-t-il ? L'homme politique démissionne. Lors de la crise de 2007-2008, qu'avaient fait les Islandais ? Les politiques en place et les banquiers, hop, on les met en prison. Plus de problème après.
Mais là, ce ne serait pas pertinent, parce que quand bien même l'homme politique démissionnerait, on en mettrait un autre qui ferait strictement la même chose.
Alors voilà, ça c'est
pas dans l'exemple,
je comprends. Non, mais je comprends l'idée. Mais ça, c'est, ça correspond aussi à ce que dit Anders dans Nous, fils d'Hachemar. C'est-à-dire qu'on est dans une société tellement bureaucratisée, tellement technocratisée, que l'argument, c'est de dire, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Donc le politique se dit, je me soumets aux directives de ce monde qui change, parce que de toute façon, si on met quelqu'un d'autre à ma place, ça ne changera pas. Faux. Ça peut dépendre de l'action politique. Et l'idée qu'on soit complètement soumis à une dictature technocratique, néolibérale, etc., c'est faux. Ça fait partie de leur propagande. L'idée qu'on soit soumis au fatalisme, l'idée qu'on soit finalement voilà, condamné à ne pas agir, ça fait partie de la propagande. J'avais lu une interview d'une politique anglaise qui disait « La différence entre la génération actuelle de jeunes dont on parlait, qui ont 15 ans aujourd'hui, et la génération des jeunes des années 80. Dans les années 80, on avait peur de la bombe atomique, mais on n'avait pas peur de ne pas avoir de boulot. Aujourd'hui, on a peur de ne pas avoir de boulot. » Donc la peur quotidienne, la pression quotidienne dans l'intégration de la société, toutes ces pressions multiples font que quelque chose qui relève de l'imaginaire, parce que c'est imperceptible, parce qu'on a besoin de susciter un autre mécanisme mental pour se le représenter, fait que ça passe au second plan. Et que c'est beaucoup plus facile d'utiliser les moyens de consommation pour simplement aller mieux. Finalement, je peux consommer, donc tout va bien, je suis intégré par la consommation et plus par la production, qui était le schéma précédent.
Mais cette capacité d'agir et de supposer qu'on est encore dans une démocratie. Or, aujourd'hui, tout laisse à penser que nous ne sommes plus en démocratie. C'était bien montré à travers les travaux du MIT, notamment aux États-Unis. Les États-Unis sont une oligarchie. Et puis ici, évidemment, avec les travaux d'Hervé Kempf, notamment, hein, l'oligarchie, ça suffit, ou comment les riches détruisent la planète. Voilà, alors. Là, il y a une contradiction, me semble-t-il. Et quand je lis ici les citations de Gupta Hazel, je suis intéressé. C'est agir par le non-agir. Alors ça me fait penser, en fait, à ce que propose le permaculteur David Holmgren, c'est-à-dire un grand débranchement, finalement. Le fait de se débrancher de la société industrielle, donc, par le fait de ne plus consommer ou de ne plus rentrer dans le système bancaire, notamment, est un moyen de déstabiliser le système et une forme non violente de le faire.
Et je pense que si je me souviens bien du reste de l'interview d'Anders, il répond à un moment qu'il ne s'est jamais considéré comme les écologistes, on va dire, de ce type-là, c'est-à-dire qui militent pour le débranchement. Pourquoi ? Parce que même si vous débranchez, si on débranche les prises de courant, les centrales nucléaires sont toujours en place. les sites de missiles nucléaires sont toujours en place. Et il y a même maintenant une nouvelle menace, parce qu'on pensait qu'à l'époque d'Anders, on ne pouvait pas augmenter encore le niveau technologique de la menace, mais la dernière menace fashion, c'est la bombe électromagnétique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu de comment ça fonctionne. La Chine, la Russie et les États-Unis l'ont. La bombe électromagnétique, ça explose dans la stratosphère et ça déclenche un rayonnement qui grille tous les circuits électriques qui sont en fonctionnement. Mais ça n'atteint pas la vie. C'est-à-dire que ça plonge une société, tout un territoire, immédiatement dans un état médiéval pré-industriel de fonctionnement. On imagine, donc ce serait, pour le coup, je pense à ça, parce que ça c'est un débranchement total. Débranchement total instantané. Mais que se passe-t-il ? Si on débranche totalement les centrales nucléaires, si on débranche totalement les silos, si on débranche totalement le système, le système électrique et énergétique, les parties sensibles, combustibles du système énergétique partiront en accident. Donc on ne peut pas débrancher le système totalement. La seule chose qu'on peut prendre, la seule décision qu'on peut prendre, je pense, c'est encore des décisions politiques, écologiques, mais qui nécessite évidemment de réfléchir à toute une nouvelle organisation de la politique, réfléchir à comment réorganiser la démocratie représentative, réfléchir. Donc évidemment, ça nécessite énormément de réflexion. Et je pense, enfin, c'est mon point de vue finalement à partir de tout ça, si on veut faire comprendre à des personnes qui ne sont pas, on va dire, non pas mobilisées, mais non pas conscientes du problème, il suffit d'expliquer que la menace, certes, est invisible, mais est localisable. On prend par exemple Paris. Si il y a une centrale nucléaire qui utilise la Seine pour ses tours de refroidissement, à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube. Évidemment, c'est un département très peu peuplé, donc on a mis des centres de traitement de déchets et une vieille centrale nucléaire sans problème. Si on a un accident, même mineur, à cette centrale qui pollue la Seine, il faut évacuer Paris. Comment on évacue Paris ? Ce simple fait que même si on minimise le risque, les centrales sont vieillissantes, on prolonge leur existence de vie. On imagine qu'elles utilisent une structure informatique et des années 60. Comment ces centrales pourraient-elles encore survivre ? On stoppe des déchets nucléaires en disant qu'ils sont réutilisables. Pourquoi ? On n'a pas encore la technologie, mais on espère que grâce aux progrès technologiques et scientifiques, on saura un jour les réutiliser. Waouh !
On le fera.
On laisse ça aux générations futures qui trouveront un moyen. Quelle irresponsabilité. Il suffit juste d'expliquer ça. Et là, tout le monde peut s'accorder sur ce simple fait. Personne ne veut être menacé. Personne ne veut avoir un cancer de la thyroïde parce qu'on a masqué, on a minimisé des accidents d'une centrale nucléaire.